Charles Aznavour, le roman d'une vie. Philippe Roisès, Anne Fleury.
Il a dit que son vrai nom était Aznavourian. Or, quand on regarde son extrait d'acte de naissance à la mairie du 5e, ce que j'ai commencé par faire, on découvre que son vrai nom, c'est Aznavourian et pas Aznavourian. Bon, c'est un détail.
J'ai ouvert les yeux sur un meuble triste, rue Monsieur le Prince, au quartier latin.
Auteur et infatigable interprète de nombreuses chansons, Charles Aznavour est une vedette depuis la fin des années 50. Star à la scène et sur les écrans de cinéma, sa réputation s'est affirmée bien au-delà de nos frontières. Primé, décoré, objet de multiples hommages, il est devenu le plus célèbre des Arméniens français.
Qui parlait le russe, et puis l'arménien. Si mon père était chanteur d'opérette, nantis d'une voix que j'en vis encore, ma mère...
Aznavour a eu l'art obsessionnel d'écrire et de réécrire le roman de sa vie, par le stylo et la caméra aussi. Une multiplication exceptionnelle d'autobiographies, de livres d'introspection, d'entretiens, de nouvelles, de photos commentées, de documentaires. Une fabrication minutieuse et admirable de son propre mythe, qui se révèle aussi passionnante que sa carrière même. Robert Belleret, journaliste, biographe de Charles Aznavour.
Si vous voulez, moi, en deux mots, j'étais un lycéen médiocre, j'ai pas le bac, et ce qui m'a sauvé, entre guillemets, c'est de découvrir, quand j'étais pré-ado ou jeune ado, Léo Ferré, Jacques Brel, Charles Aznavour, Guy Béard, pas mal d'autres. La chanson. S'il n'y avait pas eu Aznavour, que je découvre en 1963, sur scène à l'Olympia, qui me fait planer, je ne serais pas intéressé peut-être au texte, à la littérature, à l'écriture, je ne serais pas devenu un journaliste réalisant son rêve de devenir grand reporter au Monde, quoi.
Ainsi j'ai grandi, sans contrainte aucune, me saoulant la nuit, travaillant le jour. Ma vie a connu diverses fortunes, j'ai frôlé la mort, j'ai trouvé l'amour. J'ai eu des enfants qui m'ont vu plus d'une fois, me souvenir le cœur un peu lourd.
Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de revenir ici à l'Olympia? Vous étiez où
C'est marrant, si je me verrais plutôt sur le côté droit, vers le 15e rang. Ma maman travaillait chez Barclay, donc avait eu des invitations. J'étais là le soir de la première. Et une première de musical à l'époque, il y avait le Tout Paris. Et le Tout Paris, qui nous fait si peur, chante Charles, c'était toutes les vedettes du cinéma, du théâtre. Devant, il devait y avoir Jean Barret, Brigitte Bardot, les intellectuels du moment, les écrivains, les trucs. C'était un événement déjà en soi. Avant le lever de rideau, il y avait déjà quelque chose qui se passait. Il y avait l'odeur de la salle, cette mélange un peu de poussière, de velours, les fauteuils rouges qui claquaient un peu pour les retardataires. Et puis cette fébrilité qui montait. Et puis il y avait les premières notes qui s'élevaient, le rideau qui tremblait, qui montait. Et voilà. Et ce petit bonhomme qui rentrait dans un halo de lumière. Et 2 heures de magie. Moi, j'ai un souvenir. Encore aujourd'hui, j'en parlerai avec émotion parce que c'était vraiment, je dirais, du grand théâtre, quoi, du métier professionnel extraordinaire.
Là, avec Aznavour, c'était le show.
Ah, c'était le show. C'était un peu à l'américaine. Oui, oui, chaque chanson était mise en scène, mais d'une façon économe. Hein, c'était pas, c'est pas appuyé. Enfin, c'est ça le métier. Tu te laisses aller. Il a chanté à un rythme très très lent. C'est drôle.
C'est drôle.
Ce que t'es drôle à regarder. Et le mec assis sur son tabouret qui regarde son épouse dans son vieux peignoir mal fermé. Et on y était, quoi.
Et moi, j'ai envie de rigoler. C'est l'alcool qui monte dans ma tête. Tout l'alcool que j'ai pris ce soir afin d'épuiser le courage
de t'avouer que j'en ai marre de toi
et de tes commérages. de ton corps qui me laisse sage et qui m'enlève tout espoir. J'en ai assez, vaut bien que je te le dise.
Alors à l'époque, pour les récitals, on distribuait un programme à l'entrée.
On vendait le programme avec un dossier, des photos, de la publicité aussi. Donc là, on voit Aznavour dans ses films, Tiré sur le pianiste, Tempo di Roma, Taxi pour Tobruk, Les Dragueurs, Le Passage du Rhin. Ce qui est amusant dans ce programme de 1963, c'est qu'en préface, il y a deux textes qui se font face. L'un de Bruno Coquatrix, le patron de l'Olympia, l'époque légendaire, l'autre de Charles Aznavour, qui disent chacun le contraire de l'autre, quoi. Mais c'est amusant, c'est fait sur le plan humoristique. Après 5 ans de brouille, j'affiche à nouveau Charles Aznavour. Et Aznavour répond, après 5 ans de brouille, j'accepte de passer chez Bruno Coquatrix. Et Coquatrix explique que Aznavour le suppliait de passer dans son musical. Et Aznavour dit en face, il m'a supplié que la scène de l'Olympia soit le tremplin de mon tour du monde. C'était rigolo comme mise en scène.
Vous avez eu l'occasion de l'interviewer lorsque vous étiez journaliste au Monde. Quel homme avez-vous découvert dans ces occasions?
C'était en 2000. Il a été charmant. On a déjeuné dans un restaurant italien près de l'Étoile. C'est un petit père tranquille qui va me raconter ce qu'il a envie de raconter, et pas plus, mais ça se passe très bien. Et alors, je l'avais rencontré avant, j'écrivais une biographie de Léo Ferré. Et je me dis quand même, bon, Aznavour, Ferré commence à peu près en même temps, il passe en même temps dans un cabaret, ça serait intéressant d'avoir son témoignage. Je me fais pas trop d'illusions. Je demande, il répond oui. Et je vais le voir dans sa maison des Alpilles, et là, il me reçoit tout un après-midi, il me dit sa flamme pour Ferré. Et il est très amical, très gentil. Mais par contre, quand je commence à faire ma biographie, quand je l'écris, là, j'arriverai pas à le revoir. Il se dérobera parce qu'il ne veut pas du tout que quelqu'un se mêle de raconter sa vie. Sa vie, c'est lui qui la raconte.
Vous êtes peut-être parti en vacances avec un livre dans votre valise, un livre paru aux éditions Fayard, couverture noire, une photo dessus et un titre Aznavour par Aznavour.
C'est-à-dire que les artistes ont de la petite fierté de vouloir raconter leur vie la plupart du temps. Moi, je ne l'avais pas encore eu. Et quand on me l'a proposé, tout de même, ça m'a piqué au vif. Je me suis dit, pourquoi pas après tout. Et puis, comme chacun croit que sa vie a été intéressante et que je suis comme tout le monde, je me suis mis au travail sans savoir exactement comment j'allais écrire ce livre. Je me suis rendu compte que le meilleur moyen, c'était d'être sincère et d'écrire exactement comme on parle. Finalement, je n'ai pas raconté ma carrière. J'ai raconté mes difficultés d'homme. J'ai raconté l'envie de réussir, de sortir d'une médiocrité, de gagner sa vie. C'est un point très important de gagner sa vie dans mon livre. Et puis, les souvenirs agréables, même quand ça a été très difficile, surnagent toujours. Mais je n'ai pas essayé de raconter ma vie, c'est la construction d'un homme dans un métier précis.
Est-ce qu'on peut dire que les mémoires sont devenues un genre un peu privilégié, en phase avec le XXe et le XXIe siècle?
À deux moments surtout, précisément au début du siècle, sous la forme des souvenirs, etc. Et dans les années 70. Les années 70 et les années 80 sont à un moment très très fécond pour les mémoires, notamment mémoires de personnalités, de stars, d'écrivains, qui sont très très publiés dans les années 70. Donc au moment même où Aznavour publie sa première autobiographie ou ses premiers mémoires.
Jean-Louis Janel, professeur de littérature, spécialiste de l'autobiographie.
Dans le cas d'un artiste, plus particulièrement d'une personnalité publique, ce désir peut être plus manifeste, ce désir peut être plus poussé parce qu'il y a dans le récit du parcours d'un artiste une telle confusion entre la dimension médiatique et la dimension personnelle, qu'on ne peut que vouloir, en quelque sorte, et il est rare que des artistes n'écrivent pas à la fin de leur vie, alors soit sous forme d'entretien, soit sous forme de pseudo-mémoire, ou écrit par d'autres, ou plus ou moins par la personne intéressée. Ce désir de réarranger les choses, il est le contre-coup de l'importance de la médiatisation et de la violence que peut avoir la médiatisation d'une existence pour un artiste. Je pense que c'est plutôt le désir de se réapproprier une vie qui a été livrée aux médias en grande partie. Dans les années 70, dans l'histoire de l'édition, il y a quelque chose qui se met en place à ce moment-là. Il y a toute une série d'éditeurs, Claude Gaiman, Charles Ronsac, Lafon et d'autres personnes qui, en quelque sorte, transposent des techniques qui viennent des États-Unis, tout simplement, hein, par lesquelles, en gros, des écrivains professionnels romancent plus ou moins la vie d'une personnalité et la transforment ou la publient sous forme de mémoire ou de ce qu'on appelle « memoir » en américain.
Lui, Aznavour, le fait qu'il ait publié tant de livres autobiographiques, avec des fois l'aide d'un écrivain de l'ombre, en tout cas en signant lui-même, c'est à mon avis pour occuper le terrain. D'abord, il aime bien parler de lui, il s'aimait bien quand même, il avait des choses à raconter. Hein, son histoire est loin d'être banale. Son enfance, son adolescence, ses débuts chaotiques, sa rencontre avec Piaf. Bon, il était au cœur du monde de la chanson en France quand même, donc il avait de quoi raconter. Mais c'est aussi parce que, en occupant le terrain, on évite que d'autres s'intéressent. Il y avait des histoires un petit peu compliquées dans sa vie, et puis des petites zones d'ombre qu'il n'avait pas envie qu'on éclaire.
Vous avez souligné que le livre de sa seconde épouse était passé quasiment inaperçu. Est-ce que c'est un hasard ?
La deuxième épouse, Evelyne, elle écrit un bouquin après leur séparation, qui n'est pas un bouquin putassier, qui est un bouquin sincère. C'est une fille intelligente, jolie, qui a le baccalauréat. Et alors pour Aznavour, une fille qui a le baccalauréat, c'est comme si elle avait fait Normal Sup, c'est... Oh ! Et puis, encore une fois, elle est jolie. Ils ont un coup de foudre. C'est une belle histoire d'amour. Ils sont dans la dèche. Ils vivent dans des petits meublés et à Montmartre. C'est la vraie bohème. C'est magnifique, leur histoire. Et elle fait un petit livre qui est pas mal écrit, qui est très intéressant, qui me paraît très sincère, mais qui trouvera pas d'éditeur. Ah, curieux. Qui va trouver un éditeur de 10e zone et qui sera étouffé dans l'œuf.
Je ne peux pas rentrer chez moi, car mon passé y est déjà. Dès que j'ouvre la porte, il vient me faire escorte et me suit partout, pas à pas, me parlant sans cesse à mi-voix, me montrant les choses du doigt. Et comme j'appréhende sa présence obsédante, je ne peux pas rentrer chez moi. Les gens me dévisagent, s'apitoient.
Il y a, pour Aznavour, une espèce de pulsion mémorielle, une pulsion de captation, un désir de garder trace et de donner ou de se donner à voir lui en tant que personnalité. On repère cette espèce de tentation du passage à la mise en scène de soi.
Ma peine est sans limite, l'amour m'a filé dans les doigts. Je ne peux pas rentrer chez moi.
Alors, il faut lui reconnaître un désir de participation, en tout cas de se montrer ou d'exister aux yeux de son public, qui ne relève pas que du narcissisme, qui est peut-être quelque chose d'autre ou qui a une dimension artistique, comme elle l'a, par exemple, dans l'autoportrait en peinture ou dans l'autobiographie en littérature. Il y a quand même une singularité, il y a quelque chose de très propre à Aznavour et qui, moi, me fascine, c'est l'importance qu'il accorde aux gestes autobiographiques ou aux gestes testimonial. Parce qu'il n'y a pas que les écrits, à vrai dire. Il y a un album qui s'intitule « Autobiographie » et l'une des chansons principales est autobiographie, et c'est une très très belle chanson. Et puis il y a ces films, dont ces documentaires dont vous avez parlé, qui pour moi, à mes yeux, sont vraiment très intéressants. Parce que on y voit en grande partie des images d'archives qui sont des images égofilmiques d'une certaine manière, du cinéma autobiographique qui a été tourné, c'est du cinéma amateur, hein, des images amateurs, que Aznavour a tourné à partir du moment où Piaf lui aurait offert une caméra très tôt, très jeune. Et cette dimension l'importance du geste et le, manifestement que ça a pour lui dans chacun des voyages qui sont les siens, de ce geste de conserver des images, de garder des images, il y a là quelque chose d'assez fascinant que je pense être partagé par très peu d'artistes et qui montre qu'il y avait chez lui un désir d'enregistrement, de captation, de conserver des traces qui sont très très grandes.
Le regard de Charles, film documentaire 2019.
J'ai filmé, partout, tout le temps, en Super 8, en 16 mm. Toutes les bobines sont là, je ne les ai encore montrées à personne. Toi, tu saurais peut-être quoi en faire. À l'inverse de mes chansons, je n'ai jamais dévoilé mes images. Quand tu les verras, c'est toute ma vie qui va se dérouler à nouveau. Ce récit que je n'ai jamais raconté comme ça.
Le réalisateur, Marc Di Domenico.
Il y a à la fois du désir de filmer. Alors oui, pour l'objet caméra, déjà. Ça, c'est vraiment certain. Il adorait les caméras. Et donc, il les essayait. Il avait toutes sortes de caméras. Il avait même la caméra cravate qui ne se voyait pas. La caméra dans les lunettes. Et puis c'est aussi une façon, quand on filme, de mettre à distance aussi, de fictionner sa vie. Quand on est Charles Aznavour, elle est où la frontière entre je suis en représentation, je suis pas en représentation, je suis le chanteur, je suis pas le chanteur. Je pense qu'on a besoin de points d'appui. Peut-être que ça en fait partie, filmer.
Je n'ai jamais revu ces images. Mais je savais en les filmant qu'un jour vous les verriez. Aujourd'hui, vous êtes là, derrière mon épaule. Il n'y a plus de division, plus de ligne entre nous. Nos regards se fondent.
Est-ce qu'il savait vraiment ?
Je ne sais pas. Il y a quand même des bobines de 1947, quoi. Il a quand même vécu, avant qu'on ressorte les images, donc c'est en 2019... Elles ont voyagé, hein. Donc ça veut dire qu'elles ont été mises à l'abri. C'est-à-dire, là, l'endroit où elles étaient stockées, c'était dans cette pièce qui s'ouvre, un bureau derrière une bibliothèque où il y avait toutes ces choses précieuses. Alors peut-être que c'était pas forcément une intention déterminée, je veux absolument faire un film, mais quand il dit « je savais que vous les verriez », c'est peut-être qu'il veut dire qu'il les avait conservées pour ça. Pour qu'un jour ça soit montré. Mais qu'il avait une forme de pudeur de ne pas le faire lui-même.
Alors vous avez réalisé deux films documentaires liés à Charles Aznavour. Ce fut deux manières très différentes de travailler.
Complètement. Mais c'est-à-dire que la seconde est arrivée en faisant la première. C'est-à-dire qu'il m'avait demandé de faire la captation au Palais des Sports en 2015, de réaliser cette captation. Et à ce moment-là, donc en 2015, j'ai pris une caméra et en plus de la captation en elle-même, j'ai commencé à le filmer. Et je pense que pour lui, c'était une façon d'écrire encore une fois sa vie, mais par la caméra stylo que je tenais. Enfin, moi, je tenais la caméra, mais c'est lui qui dirigeait. Et en fait, pendant toute cette période, hein, qui a duré 2-3 ans quand même, hein, donc j'ai accumulé des images. Et un jour, je lui ai proposé, je lui ai dit, Charles, on pourrait peut-être les utiliser pour faire un documentaire. Il m'a dit, oui, c'est très bien. Et là, il me dit, tu sais que moi aussi, j'ai filmé beaucoup. Et c'est là où il m'a montré ces images. Et ces images, j'en ai utilisé quelques-unes pour mettre dans ce premier doc, mais en les voyant, je lui ai dit, c'est un film en lui-même. C'est tout ce qu'il a pu écrire avec sa caméra, de 47 à... Bon, moi, je me suis arrêté à 82, mais il y a encore des images derrière. Parce qu'il n'a jamais cessé de tourner. Et l'image, chez Charles, c'est un jet, c'est un mouvement, c'est one shot. C'était une façon de se raconter immédiate. Je laisse aller ce qui me vient, je filme ça. Mais ce n'est pas par hasard. Est-ce qu'il livrait vraiment... je ne sais pas. Je pense qu'il... il était dans la fuite. Et je pense que c'est ce qui fait que ça lui a plu, l'idée de ce film, l'idée de reprendre toutes ces images. Il avait une... En fait, c'est ça. Et Charles était très pudique. Très, très pudique. Et donc il me laissait faire un peu, c'est comme si il me passait la patate chaude.
L'instant présent est impalpable, il est léger, insaisissable, suspendu dans l'air et le temps, il ne dispose simplement que d'un très court moment sur terre. L'instant présent a des œillères.
1970.
Je crois que pour pouvoir réussir dans ce genre d'entreprise qui est le livre de souvenirs, il faut absolument être très honnête et très sincère. On ne peut pas composer, on ne peut pas se réinventer. Il faut s'écrire comme on est et il faut dévoiler les réactions qu'on a eues au moment où on les a eues.
Donc il écrivait beaucoup, beaucoup, un peu vite, un peu trop vite. C'était quand même souvent des bouquins bâclés. Alors évidemment, pour le biographe, ces bouquins-là, ils sont d'une utilité extraordinaire. Parce qu'il suffit de faire la part en vérifiant une fois, deux fois, trois fois, si possible, faire la part du vrai et de la fabulation. C'est évidemment formidable, ça fait un canevas, quoi.
1956.
Dans le cadre de l'émission La parole est à la nuit, Luc Bérimont présente Charles Aznavour.
Je suis né à Paris, dans un milieu de commerçants artistes. C'est-à-dire que mes parents étaient artistes dans leur pays, en Arménie, et puis arrivés en France, comme la langue ne leur permettait pas de continuer leur métier, ils ont ouvert des restaurants. Et mon père est un monsieur qui s'est ruiné à faire venir de pays étrangers des orchestres qui lui plaisaient à lui. C'est-à-dire que dans un tout petit restaurant de la rue de la Huchette, qui est depuis devenu le théâtre de la Huchette, il avait fait venir un orchestre de 9 musiciens hongrois, uniquement parce que ça lui plaisait. Alors il perdait énormément de place parce qu'il y avait des danseurs et on ne pouvait pas mettre de table et ce n'était pas un cabaret. Je voulais danser à l'époque et j'apprenais à danser avec ces Hongrois qui étaient là. Chose bizarre, il m'apprenait à danser la danse russe.
Qu'est-ce qu'on sait des parents de Charles Aznavour, de la raison de leur venue en France, leur milieu social, leurs conditions de vie ?
Son père est né en Géorgie. On peut pas dire qu'il ait fui le génocide, sa mère non plus tout à fait, mais il fuyait ses conséquences, parce que le génocide avait eu lieu en 1915, c'est l'époque la plus tragique, et eux sont venus au début des années 20. Donc, mais ils fuyaient un environnement un peu hostile, et puis ils avaient aussi envie de venir en France, ne serait-ce parce qu'il y avait le grand-père qui était à Paris, qui avait un restaurant, ça fait quand même une très bonne base pour débarquer au quartier latin. Mais ils ne parlaient pas français. Ils ne se sont pas si bien insérés que ça, d'ailleurs. Hein. Le père est devenu serveur chez son propre père. Puis il a ouvert un restaurant, mais qui a fait faillite assez vite, parce que le père, ce n'était pas un gestionnaire. Et c'était un bringueur, il invitait des copains. Et il y avait les tziganes, la chanson magnifique, les deux guitares. C'est ça, c'est l'ambiance de ce restaurant, hein, où on boit beaucoup, on chante, on pleure. C'est toute la nostalgie... qui affleure. Après, il a un café qui marche pas bien non plus. Heureusement que Charles va faire bouillir la marmite. Ses premiers petits cachets, il les ramène à la famille. Le père chantait de l'opérette avec une petite troupe. Donc, on peut considérer qu'il était artiste. La mère, c'est plus compliqué. Elle chantait, mais elle chantait en amateur. Après, elle a eu un emploi de bureau. C'était une femme très courageuse qui a élevé magnifiquement ses enfants le mieux qu'elle pouvait. Aznavour disait, si ça donne la chair de poule, quand il raconte ça, qu'il entend encore le bruit de la machine à coudre quand sa mère faisait des travaux de couture la nuit. Moi, ma mère faisait pareil. Donc ce bruit-là, c'est quelque chose qui marque.
Les gares se ressemblent, tous les ports crèvent d'ennui, toutes les routes se rassemblent pour mener vers l'infini.
Les gamins vont s'insérer dans la société à force de volonté et par amour de leur pays, non pas d'adoption, parce qu'Aznavour il est né à Paris, dans le 5e arrondissement. Pas dans une pas dans un hôpital pour indigents, comme il le racontera, mais à la clinique Trarier, qui est à côté de la closerie des Lilas et du Jardin du Luxembourg, qui n'est pas précisément un établissement pour indigents. Il est né là, en 1924.
À chaque nouvelle frontière, espérant enfin se fixer, il fait une courte prière vers ce ciel qu'il a oublié. Regardez-le, il déambule sans jamais savoir où il va. Il marche comme un somnambule et les gens le montrent du doigt.
Alors où est-ce qu'on se trouve, Robert Velleray, là ?
On se trouve rue du Cardinal Lemoine, dans une rue qui est importante pour Charles Aznavour, parce que ses parents se sont retrouvés à gérer un café dans cette rue. Bah, sur le trottoir d'en face, là, vers les numéros 20 et quelques, Charles, qui était un gamin, hein, et sa sœur, ont été inscrits à une école qui était, on se trouve juste devant, dans la même rue, sur le trottoir d'en face, qui s'appelle l'école des enfants du spectacle. Et c'est un peu le hasard géographique qui a fait qu'ils sont arrivés là. Mais ça a joué beaucoup. Parce qu'ils avaient l'un et l'autre, Aïda et Charles, la fibre artistique, qui se rêvait chanteur, acteur, bon, comme beaucoup de gosses. Mais en se retrouvant ici, ils ont été au contact, non pas d'une école de formation, c'était pas du tout le cas. On n'apprenait pas l'art dramatique, ni la chanson, ni la danse ici. C'était une école communale. Simplement, on y accueillait de préférence, à l'initiative du créateur, M. Rognoni, des enfants dont les parents étaient artistes, et qui avaient donc des horaires, des contraintes très particuliers. Donc on acceptait une certaine souplesse pour que les gamins soient scolarisés, même si les parents étaient en tournée, jouaient le soir, l'après-midi, enfin...
Appel en cours. Porte ouverte.
On est dans la cour de récréation de l'école des enfants du spectacle. Il y a des platanes qui sont peut-être les mêmes sous lesquels Charles Aznavour jouait avec ses petits copains quand il avait 9 ans. Il est rentré ici, il avait 9 ans. Il y avait des recruteurs, on pourrait dire, appeler ça comme ça, qui passaient ici, qui rassemblaient les enfants dans la cour et qui avaient besoin, disons, de 5 petits danseurs et qui les recrutaient là. Et lui a réussi à être pris quelquefois pour jouer dans des représentations du théâtre du Petit Monde, si j'écorche pas le nom, où il y avait, comme son nom l'indique, des représentations de spectacles pour enfants, joués par des enfants. Et il était déjà un enfant de la balle. C'est-à-dire que les tout petits revenus qu'il avait, c'était pour ses parents. Et il faisait notamment le danseur. Il faisait des danses caucasiennes, vous savez, agenouillé, en lançant une jambe alternativement, etc. Il savait ça faire parfaitement. Donc il était là. Sa sœur était là, ça les a pas formés, mais ça leur a appris à dominer le trac et à s'adapter.
Vous nous avez amené un document ?
Ah oui, un document qui est assez émouvant, je trouve, qui est un extrait du registre d'inscription des élèves. Vous voyez, c'est écrit à la plume, au porte-plume, magnifiquement d'ailleurs, de très jolis caractères. J'ai trouvé ça aux archives de la ville de Paris. Et là, je trouve, en ayant feuilleté je ne sais combien de dizaines ou de centaines de pages, une page où on voit le numéro 518 et 579, Aznaourian Aïda, la sœur de Charles, et Aznaourian Charles lui-même, date de l'entrée des enfants à l'école, 6 février 1933. Donc il a 9 ans. Sa sœur venait d'une école rue Saint-Jacques. Et lui, l'école d'où il provenait, c'est néant. C'est-à-dire qu'il n'était pas scolarisé. À 9 ans, il n'avait jamais été scolarisé, donc il ne savait vraisemblablement ni lire ni écrire. Mais il a rattrapé le temps, hein, perdu. Et alors, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de voir dans la colonne observation, qui est généralement vierge, en face de Charles, il y a une petite mention qu'on peut lire, là, toujours à la plume, C.étude. C'est études, ça veut dire qu'il a eu le certificat d'études. Or, il se lamentait toujours, Charles, même devant moi. Il m'a dit, je l'ai eu le certificat d'études, mais je ne l'ai jamais retrouvé. Je ne sais pas où c'est passé, je n'ai jamais retrouvé, mais je l'ai eu.
Enfant de la balle, selon Charles Aznavour, en 1986.
Alors, je suis un enfant de la balle. J'ai commencé dans les théâtres, dans des petits rôles d'enfant ou des grands rôles d'enfant.
Vous aviez 10 ans à vos débuts.
J'avais 9 ans.
9 ans, en 1933, par là.
À 9 ans, j'ai commencé au théâtre. À 10 ans, je gagnais bien ma vie.
Et en 1980...
Non, j'ai vraiment fait ce métier.
Enfant de la balle, alors. Hein.
Enfant de la balle, c'est encore un mot qui ne me plaît pas. Disons, j'ai pris une profession quand j'avais 9 ans. Et depuis l'âge de 9 ans, j'ai poursuivi une carrière dans la même profession.
Et vous saviez que c'était cette profession-là,
enfant. Il n'y en avait pas d'autre profession, c'est celle-ci ou rien. Parce qu'un Arménien, à l'époque, ça ne devenait pas ça. Ça devenait un merveilleux cordonnier ou un bottier ou un tailleur. Et toute ma famille avait commencé... ils avaient l'aiguille à la main et puis le dé à coudre au doigt. Mais moi, il n'en était pas question.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent.
Et je pense qu'il avait plusieurs revanches à prendre sur la vie. Il subit ce qu'on subit quand on est pauvre. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'accès forcément au langage, on n'est pas très bien habillé. Voilà, on n'a pas de sous, on est un peu méprisé. Il ne fait pas d'études. Donc ça laisse des marques, ça laisse des traces. Il a une revanche sociale, il a une revanche du gars déraciné qui veut exister dans son pays, mais qui veut être plus français que les Français. Et il y parviendra. Donc ça, c'est une forme de revanche, de dire, bah, je suis là, et je vais exister là, et je vais devenir quelqu'un là, et je vais donner même du bonheur. C'est magnifique, la trajectoire d'Aznavour, c'est magnifique.
Voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens.
Vous dites que votre adolescence, évidemment, vous l'avez vécue pendant la guerre.
Oui, donc on était très responsables. D'abord parce que le père était engagé volontaire.
1995.
D'abord, et quand il est rentré, il a fait beaucoup de résistance, donc on ne le voyait pas beaucoup. Il fallait survivre. Et pour survivre, il a fallu que l'on gagne notre croûte, ma soeur et moi.
Cette époque de la guerre, c'est important dans votre parcours, Charles Aznavour. Il y a eu, vous avez abrité des juifs, vous avez connu Manoukian.
Des juifs, des communistes. D'abord parce qu'on était très penchés à gauche. Ouais. On ne faisait pas partie du parti, ce n'était pas la peine d'ailleurs. Mais mon père a travaillé, et ma mère aussi, à côté du groupe Manouchian.
Ouais.
Pas dedans, mais à côté, c'est-à-dire qu'on aidait.
Alors ça, c'est étonnant, on ne le sait pas trop, ça.
Bon, c'est pas la... je ne vous raconte pas trop ces choses-là. C'est encore ma vie privée.
Son père s'est engagé quand même, mais il n'a pas été au front. Il s'est engagé dans l'armée, il était dans un camp dans l'extrême sud de la France. Là, Charles, et surtout sa sœur, laisse entendre qu'il s'est battu, qu'il était au front. Non, d'après ce que j'ai retrouvé, c'est pas le cas. Mais enfin, il y a eu cet épisode. Il est revenu sain et sauf, Dieu merci. Les parents, bon, étaient pas si mal logés. Là, ils avaient trouvé un appartement sur les pentes de Montmartre, en contrebas de Pigalle, mais un appartement correct. Le père perdait un boulot, en retrouvait un autre. Il a été serveur dans un restaurant russe qui accueillait énormément d'officiers et de soldats allemands, hein, parce que c'est eux qui avaient du pouvoir d'achat et la liberté. Enfin bref, c'était la clientèle essentielle. Mais il y avait parmi ces soldats, des soldats, est-ce qu'on peut dire malgré eux, mais un petit peu, qui étaient d'origine arménienne. Quand je dis arménien ici, c'est compliqué, ça peut être... arménien de Turquie, arménien de Géorgie, voyez, c'est... Enfin bref, considéré comme arménien, qui échangeait avec lui, et il les aurait aidés, il les a aidés, je pense que c'est pas discutable, à quitter l'armée allemande. Donc il les faisait venir chez lui, il leur donnait des vêtements civils, et il leur permettait de déserter, quoi, de se fondre dans la nature. Peut-être une demi-douzaine de fois, il a fait ça. Ce qui est joli, ce qui est courageux, hein, parce que s'il avait été pris à faire ça, c'était sûrement le poteau d'exécution. Hein. Charles, qui n'était pas souvent chez ses parents, parce qu'il avait déjà pris son envol, il était plus souvent avec son partenaire de duo, Pierre Roche, et il faisait les cabarets. Alors là, il ramait pour de bon. Hein. C'était vraiment des artistes en devenir. Ils couraient le cachet, mais c'était pas le succès. Mais ils avaient une vie d'artiste. Et puis Roche, il avait des parents bourgeois. Donc Aznavour était plus souvent chez Roche que chez ses parents à faire la bringue. Ils vont faire des tournées un peu curieuses. Aznavour racontera qu'il partait à vélo, faire 200 km à vélo, sur un seul vélo, avec des valises. Bon, ça c'est complètement affabulé, à mon avis. Peut-être qu'ils ont pris le vélo pour faire 10 km un jour, mais bon, ça devient une épopée cycliste. Donc il est moins souvent chez ses parents que qu'avec Roche ou dans les cabarets. Néanmoins, il raconte qu'il est présent quand il y a ces militaires postulant à la désertion qui passe, qu'avec sa sœur, ils vont détruire les uniformes, que lui récupère des fois les bottes en cuir, les cache dans la cave. Et de fil en aiguille, à chaque fois qu'il raconte cet épisode, avec une certaine complaisance, il en rajoute un peu. C'est-à-dire qu'on a l'impression, au lieu d'utiliser le passé simple, il utilise l'imparfait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une routine, que c'est une industrie. Que le père va au restaurant, il ramène des militaires, il les cache. Et puis les militaires, ça devient après des résistants, puis des communistes, puis après des juifs. Donc là, à mon avis, on glisse insensiblement vers de l'exagération qui est un peu gênante et un peu troublante. Ça n'a jamais été l'appartement des Aznavour, on n'est pas devenu la plateforme de l'exfiltration des gens persécutés. Charles, c'est un peu plus compliqué parce que au tout début de l'occupation, son premier réflexe, ça n'a pas été de résister, mais on ne va pas lui en vouloir, évidemment, c'était encore un tout jeune homme. Hein. Mais son premier réflexe, ça a été essayer de faire du marché noir, des combines, d'acheter des bas nylons, des accessoires de toilette, etc., pour les revendre. Des lames de rasoir, des choses comme ça, pour les revendre, en faisant un gros bénéfice aux soldats allemands, qui, eux, avaient des marques à dépenser. Bon, c'est un peu curieux. Ça, il le raconte à plusieurs reprises. Alors, là, il exagère peut-être qu'il l'a fait qu'une fois ou deux, et que ça devient son activité. Mais il s'en vante, hein. Il dit, ah, j'avais trouvé telle combine. Et puis, on avait repéré que les gens abandonnaient leur vélo quand ils partaient, quand il y a eu les exodes. Ils prenaient leur vélo, ils l'abandonnaient à la gare de Lyon ou à la gare d'Austerlitz. Donc, ils allaient récupérer ces vélos abandonnés, ils les bricolaient dans un garage pour les revendre. Alors là, peut-être qu'ils l'ont fait pour 5-10 vélos, mais là encore, en le racontant comme une activité, on a l'impression que c'était une industrie, que c'était organisé, ce qui n'était pas très glorieux, entre parenthèses. Et puis, à la fin de la guerre, on ne peut pas dire qu'il a été tellement traumatisé. Il a vécu une jeunesse, évidemment, entravée par l'occupation, mais il a vécu sa jeunesse quand même.
1948.
Pierre Pat est parti à la table de Roche et Aznavour pour les décider à venir au micro. Je crois d'ailleurs que les voilà. Voici tout au moins Charles Aznavour.
Oui, c'est moi.
Bonjour Charles Aznavour. Où est votre partenaire?
Il est là, un peu plus loin.
Ah bon, il s'installe au piano?
Oui, oui.
Ah bon, et qu'est-ce que vous allez chanter?
Eh bien, on va vous chanter une petite loufoquerie qu'on a intitulée Le Feutre Taupé.
Le Feutre Taupé. Bon, et bien maintenant, j'annonce au public. Mesdames et messieurs, voici le tour de chant, ou plutôt une chanson chantée par Roche et Aznavour. Oh.
Le feutre taupé. Il portait un feutre taupé, il parlait par onomatopée, il buvait des cafés frappés avec des pailles. Il était très dégingandé, il fumait des camels parfumés, il marchait à pas combinés, boulevard Raspail. Il suivait des inconnus chaque soir le long des rues pour leur dire l'air ingénu. Il portait un feutre taupé, il parlait par onomatopée, il buvait des cafés frappés avec des pailles.
Il était très imprudent car il risquait de se faire écraser tout le temps. Il fuyait en s'excusant, tandis que les gens disaient en s'éloignant. Mais
Edith Piaf, selon Charles Aznavour, en 1970.
Charles Aznavour, à travers ce livre, on découvre tous ceux qui vous ont entouré pendant cette période. Et il y a des noms qui reviennent souvent. Il y a par exemple la période avec Piaf. Ça a été l'une des périodes les plus importantes et qui tient un nombre de pages assez volumineux dans ce livre.
J'ai vécu dans le sillage de Piaf 8 ans, d'une manière continue. Et puis ensuite, j'ai continué à voir Edith régulièrement.
C'est pas facile de vivre dans le sillage de Piaf.
Quand on aimait, c'était facile.
Et toujours sur Edith Piaf, en 1995.
Elle n'était pas facile. Mais dire qu'elle n'est pas gentille, on ne peut pas dire ça. C'était une femme qui avait un cœur énorme.
Généreuse certainement, mais elle pouvait faire mal. Et elle a dû vous faire mal.
Me faire mal, non, elle ne m'a pas fait mal. Elle ne m'a jamais fait mal, parce que ce qu'elle me disait, c'était des choses drôles la plupart du temps.
Même sur votre voix, quand vous vouliez être chanteur?
Ah, sur ma voix, elle ne m'a jamais rien dit.
Ah ben j'ai lu ça quelque part.
Non, elle ne m'a jamais rien dit sur ma voix. Ni sur ma voix, ni sur mon physique.
Elle vous a encouragé à chanter?
Oui. Elle m'a beaucoup aidé pour que je prenne confiance en moi-même. Elle m'a beaucoup aidé à ce point de vue-là.
Elle vous a enseigné des choses?
Non. Mais il n'y avait qu'à la regarder.
Donc il a de la volonté, du courage, et puis il a une intelligence, un flair extraordinaire, qui à mon avis s'est affiné, qu'il avait sans doute, qui était inné, mais qui s'est affiné à son contact avec Piaf. Il a été au contact avec elle, non pas 8 ans, comme il le dira souvent, mais plus de 3-4 ans. C'est déjà pas mal. Mais il est à l'époque rien du tout. Il est son porteur de valise, un peu son domestique, elle le traite vraiment. Mais il est là. Il se fait maltraiter, il est méprisé. Elle lui laisse des fois chanter une ou deux chansons en levée de rideau. Mais tout juste, il est toléré. Elle ne croit pas en lui. Mais lui est au contact de Piaf. Et il voit l'intelligence aussi artistique de ce phénomène, Piaf, qui sait doser un tour de chant, qui sait faire des effets de scène millimétrés, qui sait enjoliver sa vie, raconter des légendes. Il voit qu'elle baratine, qu'elle a de la répartie, qu'elle sait raconter les histoires quand elle est devant un micro. Là, il apprend. Et je pense que ça lui donne l'idée, après, d'arranger les choses. C'est tellement facile de partir de quelque chose de vrai. C'est pas quelqu'un, Aznavour, qui invente. C'est quelqu'un qui arrange, qui enjolive. Son talent, c'est de partir d'un matériau qui est déjà riche et de laisser dire aussi. Mais c'est idiot parce que la réalité, là encore, est tellement riche, tellement émouvante, vibrante, que pourquoi en rajouter ?
France Inter, Le Journal, Patrice Bertin. Prison avec sursis et amende sévère requise contre Charles Aznavour, accusé, vous le savez, de fraude fiscale.
1977.
On m'accuse à tort d'avoir fraudé le fisc. Je pense parce que je suis suffisamment connu pour que ça fasse du bruit et que ça fasse peur aux gens qui, authentiquement, fraudent le fisc.
Vous avez la conscience parfaitement tranquille.
Non seulement j'ai la conscience tranquille, mais je pense que l'administration n'a pas la conscience tranquille parce qu'ils ne sont pas tellement sûrs de ce qu'ils avancent. Ils sont même sûrs du contraire. Ils savent très bien que je n'ai pas fraudé le fisc.
Est-ce que vous êtes toujours aussi virulent envers votre pays et son système fiscal?
Je suis toujours aussi virulent envers le système fiscal français. Je produis pour moi et pour mon pays, il ne faut pas l'oublier. Je ne fais pas partie de ces artistes qui travaillent en cercle fermé en France, c'est-à-dire qui gagnent leur argent en France, qui payent des impôts français. Moi, je fais partie des artistes qui gagnent leur argent à l'étranger, donc qui font rentrer des devises en France. Je ne veux pas qu'on m'ennuie. Je suis trop gentil pour qu'on m'ennuie. Et quand on a besoin de moi, comme le 20 avril, parce que c'est les cinquantenaires du disque, et qu'ils leur font un artiste international, et que le seul véritable artiste international, et ils le savent, c'est moi. On me demande à moi d'aller au théâtre Montansier à Versailles. Écoutez, faut être gonflé pour le faire. On me demande à moi officiellement pour aller à Versailles chanter pour le renom de la France. Je veux faire gratuitement, être télévisé gratuitement et que cette télévision soit diffusée dans le monde entier gratuitement. On me prend pour un imbécile ou quoi?
On peut dire que ce qu'on pourrait appeler un peu le roman fiscal de Charles Aznavour, il commence très tôt en fait. Il y a des affaires qui remontent à loin.
Oui, alors il y a des affaires qui commencent d'ailleurs dès le début des années 70 avec son yacht qui a brûlé dans le port de Mandelieu-la-Napoule et qui était déjà suspecté d'avoir été acheté via la Suède pour éviter la TVA française. C'est un peu anecdotique, mais c'est déjà le premier point, enfin le premier élément qui montre cette volonté qui est devenue un peu obsessionnelle par la suite d'échapper au fisc français.
Romaric Godin, journaliste à Mediapart.
Et puis ensuite, effectivement, dans les années 70, il y a eu tout le roman de la première lutte entre Charles Aznavour et le fisc français, avec deux affaires. Lorsqu'il s'installe en Suisse, il s'installe officiellement en 1972, mais il continue à résider en France la plupart du temps, ce qui lui est reproché par le fisc français, donc qui porte plainte contre lui. Il a déjà des sociétés écrans qui sont basées en Suisse à ce moment-là, ce qui est aussi lui est reproché par le fisc français. Alors, dans ces deux affaires distinctes, il va y avoir une condamnation confirmée en appel en 76 et 77. Et effectivement, il y avait bien à l'époque quelque chose qui d'ailleurs était interdit à l'époque, qui était la mise en place de sociétés suisses chargées de récupérer en fait les bénéfices de ces activités françaises et de les soumettre à l'imposition suisse et non plus à l'imposition française. Donc ça, ça a été effectivement, il a été condamné pour ça. Et cette première condamnation, elle a souvent été en fait oubliée, ou en tout cas, il a fait en sorte que ce soit oublié, caché par cette deuxième affaire. Il y aura en fait un non-lieu. Donc effectivement, lui a toujours dit, bah voilà, la justice m'a donné finalement raison sur la question de la fraude fiscale, donc circuler, il n'y a rien à voir. Sauf que en fait, il y avait quand même quelque chose à voir, parce qu'en fait, ce non-lieu, il est quand même un peu bizarre. Le non-lieu de 1980, et Charles Aznavour l'a lui-même, en fait, avoué bien plus tard, était le fruit, en fait, d'une transaction un peu étrange, où il serait passé par des appuis politiques, et il dit lui-même que ça lui a coûté très cher. Et effectivement, bon, il a vraiment, on sent que c'est quelqu'un qui a eu un vrai problème vis-à-vis de cette question fiscale. Enfin, moi, je pense qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'obsession, parce que même si la fiscalité sur les dividendes pouvait être importante jusqu'en 2017 en France, bon, c'est pas des sommes. Voilà, il pouvait continuer à vivre en payant ses impôts sans aucune difficulté, et sa famille avec lui. On a même le sentiment qu'il a réécrit l'histoire a posteriori pour se donner le beau rôle dans cette affaire fiscale, puisque il a expliqué que c'était le fisc qui l'avait finalement persécuté, que c'est le fisc qui l'a chassé de France, qui l'a forcé à s'installer en Suisse, le fisc, les médias, l'État, enfin voilà, c'est une sorte de conspiration contre lui, quoi. Ça, c'est pas une démarche qui est très valorisante. Enfin voilà, j'ai pas envie de payer mes impôts, voilà, bon, surtout que en parallèle, Charles Aznavour a développé une image de philanthrope avec son engagement pour l'Arménie, etc. Donc c'est compliqué d'avoir cette image-là et cette image très très égoïste du riche qui veut pas payer ses impôts.
Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi, hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre, avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts d'effroi. Ils sont tombés en invoquant leur Dieu au seuil de leur église, ou le pas de leur porte, en troupeau de désert titubant en corde, terrassés par la soif, la faim, le fer, le feu. Nul n'éleva la voix dans un monde euphorique.
Il y a une chanson qui a pour titre « Ils sont tombés ».
1986.
Alors, comment vous la considérez, celle-là? C'est quand même le génocide des Arméniens.
Non, mais c'est pas pareil, ça. C'est une question de sang.
Peut-être vous êtes-vous engagé un peu tard, là aussi.
Je ne me suis pas engagé tard. Je me suis engagé quand j'ai été capable d'écrire bien ce qu'il fallait dire. Je ne me suis pas précipité pour l'écrire. Et je ne me suis pas engagé, j'ai fait une chose tout à fait normale, c'est le cheminement normal. Un homme vit dans son village, il quitte son village, il se passe des choses dans son village, s'il y reste totalement étranger, cet homme n'a pas de cœur.
Vous parlez d'un rapport ambigu à ses ascendances arméniennes.
Il a toujours dit qu'il était arménien. C'est plus compliqué puisque son père était né en Géorgie. Sa mère, on ne sait pas ce qu'est devenue la famille de sa mère. On pense qu'elle a été anéantie. Est-ce que c'était dans la longue marche de la mort où on affamait les pauvres Arméniens pour les faire descendre dans le sud, ce qui est aujourd'hui la Syrie. Toujours est-il que c'est, il y a eu un destin ultra tragique pour la famille de sa mère. Donc il n'a pas caché ses origines, mais il se voulait plus assimilé que, plus français que français. Et donc les histoires, la vie d'avant, c'est anecdotique. C'est... Il n'évoque ça que vraiment en filigrane. Et puis il y a le tremblement de terre d'Erevan et alentour, avec beaucoup de victimes en 88, si je ne dis pas de bêtises. Et là, il va être un peu rattrapé par l'histoire. Il s'implique. C'est tout à son honneur. Mais là, d'un seul coup, il va devenir le porte-drapeau des Arméniens beaucoup plus visible qu'avant. Et là, il va y avoir un cheminement qui va aboutir à ce qu'il ait une statue gigantesque sur une place d'Erevan, en bronze, vraiment comme Mao Tse-tung ou Lénine. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable. Et un musée à Charles Aznavour, à Erevan. Et donc, il a été fait citoyen d'honneur, il a été ambassadeur d'Arménie, il est devenu plus tard ambassadeur d'Arménie en Suisse, représentant de l'Arménie à l'UNESCO, enfin, bombardé de titres. Et là, il va faire un cheminement commun assez intense. D'ailleurs, quand il sera invité sur les antennes de radio, la télévision, chez Michel Drucker ou ailleurs, il y aura toujours un couplet, quelque chose sur l'Arménie. Vous qui avez tellement ça, c'est votre cause. Et on le poussera à en parler. Il le fera d'ailleurs bien volontiers.
1995.
Par contre, j'ai toujours pensé une chose tout à fait particulière. Moi qui ne suis pas tellement destin, etc., etc., et pas du tout même, j'ai toujours pensé que notre peuple avait besoin d'une voix. À une époque où les voix arméniennes s'étaient toutes éteintes, je pense que notre peuple avait besoin d'une voix. Je suis assez croyant, je suis pas superstitieux, mais je suis croyant. Plus ou moins, quoi. Au moment où je suis pas un croyant fanatique, mais je suis croyant. Et je pense qu'une force divine a apporté une voix à ce peuple, et que j'ai eu la chance que ce soit tombé sur moi.
Ah oui, vous croyez ça?
Ah, j'y crois, oui.
Élu, Aznavour, élu.
Oui, oui, je le crois.
Il y a rarement un artiste qui a publié autant de livres sur lui-même. Est-ce que ça dit quelque chose de lui?
Le souvenir, il est mouvant.
Marc Di Domenico.
Enfin, j'ai l'impression. C'est que si on a un souvenir à 20 ans de ce qu'on a connu dans la petite enfance, on voit nos parents d'une certaine façon, on voit notre vie, notre environnement. Voilà. Mais si on fait cette introspection-là à 40, déjà, c'est plus comme à 20. Donc on a envie de reprendre les mailles, je dirais, de l'histoire. Et après à 60, et après à 80. Et Charles, il a écrit jusqu'à l'âge de 93 ans. Donc... Est-ce qu'il y aurait une forme de narcissisme, de vouloir toujours comme ça revenir sur sa propre histoire? Je crois pas. Je crois que c'est une forme de catharsis. On règle les choses avec soi. C'est pas le même livre à chaque fois. Alors, les anecdotes restent les mêmes. Mais déjà, tout ce qu'il y a autour et la façon de repenser ces moments et ces anecdotes sont très différentes. Et j'aime bien parce qu'on voit la progression comme ça de la vie d'un homme.
Tout lecteur d'un récit autobiographique, d'une certaine manière, admet la possibilité, accepte l'idée d'être le lecteur plus ou moins crédule d'un récit dont il n'aura jamais exactement tous les tenants et les aboutissants, ne serait-ce que parce que la vérité sur soi à la première personne est peut-être en grande partie impossible.
Jean-Louis Janel.
En raison même de l'amour-propre, de ce que au XVIIe siècle les moralistes appelaient l'amour-propre et de l'impossibilité d'avoir un regard qui serait totalement, parfaitement objectif, pardon, impartial sur soi-même. Ce qui, moi, m'intéresse beaucoup chez lui, c'est qu'il a le profil de l'autodidacte. C'est que dans son rapport à l'autobiographie, il a cette tentation notamment de mythifier certaines scènes, de re-raconter à plusieurs reprises sous de multiples versions certains moments ou certains faits qui vont être particulièrement importants dans sa mythologie personnelle. Donc de construire, d'être le mythographe de lui-même en quelque sorte. Et que cette tentation, elle est, on la repère en tout cas en littérature ou ailleurs, en particulier chez des autodidactes. Mais chez lui, il y a quelque chose de vraiment à la fois frappant et touchant dans cette espèce de rage de donner, de maîtriser la version qu'il veut donner de son existence et qui est un trait caractéristique, alors dans toute proportion gardée, évidemment, mais on trouverait quelque chose de cet ordre-là chez un Malraux, par exemple, du côté de l'écriture, de la littérature. Peut-être que cette espèce d'incertitude qui est celle de l'autodidacte, en grande partie, de celui qui a dû faire sa place, est aussi l'une des raisons de son attitude.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà.
Toute la chanson d'aujourd'hui, tous les malheurs que l'on chante, c'est moi. On n'a pas chanté les malheurs avant moi.
1986.
On a chanté la mort.
Oui.
On a chanté l'amour, les vous êtes jolie, etc. Mais on n'a pas chanté le problème du couple, du triangle. C'est moi qui ai amené tout ça. Le jeu, à 99%, c'est moi.
C'est vrai.
J'ai mal, c'est moi.
Et vous en avez conscience. Et vous en avez conscience.
Oui, et ça m'amuse beaucoup. Mais c'est la seule chose, finalement. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'on sache ce que j'ai amené. Le reste n'est pas important.
Sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge. Mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore.
C'était Charles Aznavour, Le roman d'une vie.
De voir devant moi un public.
Merci à Vincent Platini et Anne-Lise Signoret.
On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine. Mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent.
Prise de son, Laurent Maghetti, Philippe Thibault, Marc Garvenès et Stéphane Touvenin.
Et mes chansons ne font rire que moi.
Mixage, cachet, Claude Niort. Archivina, Marie Chauveau.
Pour subsister, je fais n'importe quoi.
Attaché d'émission, Sylvia Favre. Coordination, Anaïs Quin.
De nuit et des filles à soldats.
Réalisation, Anne Fleury. Un documentaire de Philippe Roisès.
Les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mille télégrammes de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.